Déclic, deuxième partie. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous venons d'écouter Polybius, Music for All Technology. Et dans cette deuxième partie, nous allons nous attarder plus concrètement sur le jeu vidéo A Normal Lost Phone.
Déclic et l'avenir. Retrouvez Déclic en podcast sur radiocampusparis.org.
Alors, déjà, je voulais commencer par te remercier, Myriam, te remercier d'être venue, mais aussi te remercier parce que tu participes au projet A Normal Lost Phone, et ça faisait longtemps que je cherchais un projet de jeu vidéo sur lequel je pourrais consacrer une émission, tout simplement. Et j'ai trouvé que sur le fond comme sur la forme, le projet A Normal Lost Phone était vraiment parfait pour Déclic, parce que c'est exactement le genre de projet qu'on recherche, un projet original, un projet innovant qui reprend des codes qu'on croit connaître pour justement les changer et proposer une expérience nouvelle. Alors, après avoir fait ce magnifique teasing, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à nos auditeurs à quoi correspond, oui, tout simplement, A Normal Lost Phone, comment est-ce qu'on joue à ce jeu et qu'est-ce que c'est ?
Déjà, merci à toi pour m'avoir invité. Du coup, A Normal Lost Phone, c'est un jeu dans lequel on vient de trouver un téléphone perdu et on va fouiller dedans pour savoir ce qui est arrivé à son ancien propriétaire. Donc ça, c'est le pitch, et en gros, tout le jeu va se dérouler dans le téléphone. On va pouvoir...
Donc l'interface du jeu n'est pas un... Il n'y a pas une interface classique de jeu avec press start et un premier niveau. Quand on lance l'application du jeu, on arrive dans un autre téléphone portable, en fait.
Exactement. En fait, on arrive sur une interface qui simule celle d'un téléphone portable, avec à la différence près que c'est pas réaliste graphiquement, mais on va fouiller dans des SMS, on va pouvoir lire des messages, regarder les contacts, regarder la galerie de photos de la personne, etc.
Et donc du coup, comment est-ce que l'idée de ce jeu est née ?
Alors, l'idée de ce jeu est née pendant la Global Game Jam de cette année à l'Engmin à Angoulême.
Alors, qu'est-ce que une Global Game Jam ?
Donc une jam en général. Donc c'est un événement pendant lequel des développeurs de jeux qui sont issus de toutes spécialités, ça peut être des artistes, des codeurs, des gens qui font du son ou autre, vont faire un jeu. En un temps très court, donc ça peut être 48 heures généralement des gens qui se connaissent pas, qui vont se retrouver, qui vont pitcher un jeu et qui vont réaliser un prototype très rapidement.
D'accord. Et donc la vôtre avait lieu où ?
Et donc la Global Game Jam, c'est une jam qui a lieu dans le monde entier, en fait, dans plein de sites simultanément. Et celle sur laquelle A Normal Lost Phone est née était à Angoulême, dans les locaux de l'Engmin, c'est l'école nationale du jeu vidéo.
Fibre Tigre, on en parlait très rapidement. Donc le format jam, c'est donc quelque chose qui est assez commun, on va dire, c'est quelque chose de très populaire dans le jeu vidéo, de concevoir comme ça.
Oui, ce qui est fou avec les gens qui font du jeu vidéo, c'est qu'ils bossent toute la journée, ils font du jeu vidéo, et le soir ils rentrent chez eux et ils jouent un peu, et puis après ils codent un peu. Et le week-end, pour se détendre, ils font des jams. Donc, ils vont jouer des jeux vidéo. Mais plus précisément, c'est bien que tu en parles, parce que si vous écoutez cette émission et que vous voulez vous lancer dans le jeu vidéo, vous pouvez faire une école, vous pouvez apprendre à coder, tout ça. Mais franchement, faites des jams. C'est-à-dire, il y en a, à Paris, il y en a une toutes les semaines. C'est-à-dire, vous vous amenez les mains dans les poches, n'ayez pas peur, parce que personne ne connaît personne. Vous arrivez là-bas, vous dites je suis graphiste, je suis musicien, je suis codeur, je sais écrire en bon français ou voire en anglais. Et vous mettez une équipe et vous faites un jeu. Peut-être qu'il ne marchera pas, mais en 48 heures, vous aurez un jeu. Et si vous faites ça tous les mois, en bout d'un an, vous aurez 12 jeux. Et ça pèsera beaucoup plus lourd qu'une année d'école de jeux vidéo. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. C'est très, très bien.
D'accord. Donc, le message est passé. C'était très bien. D'autant plus que c'est dans ce contexte qu'est né A Normal Lost Phone. Donc, du coup, l'équipe qui s'est regroupée pour le jeu était une équipe internationale, je crois.
En fait, c'est dans le cadre d'un échange avec le Cologne Game Lab. Du coup, il y a une personne qui vient donc de cette école de Cologne et qui se trouve en plus être espagnole à la base.
D'accord.
Donc c'est très européen comme équipe. Le reste de l'équipe étant française, mais avec des gens gens qui viennent de toutes les villes de France, en fait.
Et la base, donc là, on va pas, on peut révéler certains éléments sans pour autant complètement déflorer l'intrigue. Il y a le thème de l'homosexualité qui revient dans ce jeu-là. Est-ce que c'était une volonté de base ou est-ce que c'est en cours de route en écrivant le scénario? Comment est-ce que cette histoire-là s'est imposée? Parce que c'est quand même pas un sujet anodin.
Alors, à la base, pendant la Global Game Jam, c'est Elisabeth, Estelle et Dimitri, donc une des game designers, scénaristes, l'autre artiste et la programmeuse qui se sont retrouvées et qui se sont dit « Ah, mais on est trois femmes, c'est super cool, c'est rare quand même, une équipe de jeux vidéo avec que des filles. » Et du coup, peut-être qu'on va pouvoir faire un jeu sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, des thématiques féministes ou qui peuvent parler donc de genre ou d'orientation sexuelle. Et elles se sont dit, en plus c'est cool parce qu'on va pitcher ça, et du coup les gens qui voudront nous rejoindre seront nécessairement intéressés aussi par ce genre de questions. Et donc c'est ce qu'elles ont fait, elles ont pitché un thème à la base sur l'identité de genre.
D'accord.
Et Raphaël...
Qui est un
donc,
thème qui ne doit pas être beaucoup traité dans le jeu vidéo, je crois.
Si.
Alors si, en fait, mais pas vrai... Peut-être pas dans les jeux, on va dire, triple A, gros budget, mais c'est un thème qui
est massif. Il y a quand même un ou deux transsexuels dans Dragon Age.
Et oui, qui sont très bien écrits.
Très bien écrits.
Dragon
Age, c'est vraiment triple A de BioWare, très très gros. Donc, disons que le jeu vidéo est relativement bienveillant vis-à-vis des questions de la transidentité.
D'accord. Voilà. Et donc, du coup, vous avez des exemples de jeux préexistants qui abordent déjà cette question de genre de manière frontale.
Dragon Age, c'est vraiment un hit de l'année dernière énorme. Hein, c'est-à-dire, c'est des centaines de millions de dollars. On peut avoir des relations homosexuelles no problemo dans ce jeu. Et en plus, il y a un personnage qui est clairement un personnage dont l'identité de genre n'est pas celle classique dans les jeux AAA.
Et c'est surtout que c'est notable parce que c'est amené dans le jeu et c'est des choses qui... Il y a un dialogue qui parle de ça et qui est très très bien écrit et qui amène le joueur à se questionner sur sa propre perception des personnes transgenres en général, en fait.
D'accord.
Mais d'ailleurs, BioWare Mass Effect, qui date de, je crois, 2010, je me trompe un peu, c'était 2009, la première quête secondaire qu'on a dans Mass Effect, ça se passe dans le futur, c'est un Star Wars américain extrêmement ambitieux. Première quête, c'est un homme qui vient te voir et qui dit « j'ai perdu mon mari ». Et à l'époque, c'était assez précurseur parce que ça évolue très vite. Mais on va dire, même s'il y a beaucoup de débats et il y a pas mal de violence sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui rejettent ces questions-là, actuellement, on va dire que le jeu vidéo est relativement bienveillant sur ces questions-là.
D'accord.
En tout cas, les développeurs de jeux vidéo sont relativement bienveillants sur ces questions.
Voilà, c'est ça.
Voilà, d'accord. Et donc, du coup, oui, j'ai interrompu. Donc, elle voulait réfléchir sur les questions de genre. Et donc, quand l'équipe s'est constituée, vous êtes partis sur un...
Exactement. Du coup, ils sont partis là-dessus avec donc Raphaël qui les a rejoints et qui était aussi très intéressé. Et c'est lui qui a amené la question en plus de l'orientation sexuelle. Pourquoi pas ne pas faire un jeu sur les questions LGBT dans leur ensemble, en fait.
D'accord. Et donc, du coup, c'est un jeu que vous avez conçu donc en 48 heures. Vous avez comment est-ce que vous avez documenté votre travail? Vous êtes parti d'une histoire de fiction totale ou vous avez été c'est un scénariste tout seul qui a travaillé dessus?
Alors, je reprends parce que tu dis vous, mais personnellement, je n'ai pas participé donc à la création du tout premier prototype de Jam. Mais du coup, à la base. Il y avait une des personnes, donc Estelle, l'autre artiste, qui voulait faire un jeu avec des images réelles. Et qui s'est dit, ça pourrait être cool de sortir, pourquoi pas même aller faire la fête, prendre des vidéos, et derrière, faire un jeu avec tous les footage vidéo qu'on aura pris pendant la soirée. Et sauf que, en fait, ça a botté tout le monde. Il y a une référence qui s'est imposée tout de suite, qui est donc Her Story, donc, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, qui est très axée vidéo, etc. Mais il y avait aussi l'envie d'utiliser un autre médium que des mots-clés pour aller fouiller dans une base de données, ouais. Trouver une autre façon de présenter ces extraits donc, réels. Et au final, pendant à l'annonce du thème qui était pour cette année le rituel, l'idée du téléphone en fait est arrivée parce que on a tous des rituels en fait hein, avec nos téléphones qui sont assez universels. Et Et du coup, les deux, donc Raphaël et Elisabeth, les deux game designers, scénaristes, se sont mis à réfléchir à comment intégrer ça dans un téléphone. Alors, ils ont pensé à plein d'histoires qui pourraient coller, mm-hmm. des histoires de... au début, c'était enterrement, mariage raté, puis ils se sont dit, c'est quand même super triste. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres rituels un peu plus joyeux ? Et ils ont pensé aux anniversaires. Et du coup, c'est là qu'ils ont eu l'idée d'un personnage qui venait d'avoir 18 ans, donc avec tout le rituel aussi du passage à l'âge adulte, de là, voilà, comment est-ce qu'on va parler donc, de l'adolescence, etc., qui en plus se prête très très bien du coup, à être mis cette histoire-là dans un téléphone.
D'accord. Et le fait donc de jouer sur le côté un peu voyeur, de fouiller dans un téléphone, etc., c'est aussi quelque chose qui sur lequel vous avez joué, le côté un peu voyeuriste en fait, d'aller fouiller dans l'intimité du portable de quelqu'un.
Alors oui, et d'ailleurs c'est une façon de jouer au jeu en fait, c'est de se dire, de prendre le téléphone et de se dire oh là là mais c'est super mal en fait, moi je peux pas faire ça, et de reposer le téléphone et dire non je joue pas. Parce que bah ça c'est un jeu dans lequel on joue pas un personnage en fait. On joue pas l'officier de police qui récupère un téléphone et qui c'est vraiment on est nous-mêmes.
Nous-mêmes qui trouvons un téléphone normal perdu, d'où
exactement.
Le titre du jeu quoi.
Est-ce que c'est spoilé que de dire qu'on reçoit quand même un message d'urgence très tôt
non,
qui
pas
nous invite.
C'est pas du spoil.
Voilà, donc parce qu'en fait quand on trouve ce téléphone, l'un des premiers messages qu'on trouve c'est mec t'es où on te cherche tu vois. Et donc du coup
on comprend qu'il a pas répondu depuis longtemps.
Voilà, il y a peut-être un problème, donc on est quand même incité à faire une bonne action en essayant de déterminer où se trouve cette personne.
Alors, bien sûr, il y a quand même le contexte, c'est un jeu vidéo, donc on prend le téléphone, on voit ces messages-là. Moi, dans la vraie vie, si je trouvais un téléphone dans la rue et que je voyais ça, je chercherais dans le répertoire maman ou papa, et puis j'appellerais.
Mais c'est ce qu'on
quoi.
Fait, finalement.
Et c'est ce qu'on fait, finalement. Et c'est ce qu'on fait, finalement, mais pas de cette façon-là.
Voilà. D'accord. Et donc, comment est-ce que... Donc, tu l'as dit, la base, c'était de partir d'archives, de documents réels, essayer de trouver une interface un peu plus sexy pour avoir accès à ces contenus-là. Mais comment est-ce que vous avez découpé, après, le contenu du jeu pour recréer peut-être des niveaux ou des temps de jeu qui soient compréhensibles, fractionnables ?
Alors, il n'y a pas vraiment de niveau, comme on l'entend, avec à chaque fois un début, une fin, etc. Par contre, effectivement, il y a des contenus qui se débloquent au fur et à mesure qu'on avance dans notre enquête. Il n'y a pas du tout de, pour l'instant, en tout cas dans la version prototype actuelle, il n'y a pas du tout de temps ou de checkpoints ou de choses qui vont limiter en fait. C'est vraiment le joueur qui avance à son rythme et il va pas, soit parce qu'il lit très vite ou qu'il a des bonnes capacités de déduction ou qu'il est très curieux ou un peu de tout. Il va découvrir des choses sur le personnage et ça va lui permettre de trouver des mots de passe qui sont les mots de passe des applications donc, du personnage. Et du coup, ça va lui faire débloquer des nouvelles applications dans lesquelles il y a des nouvelles informations.
D'accord. Donc on a quand même un renouvellement de l'interface à chaque fois, puisqu'en fonction des applications, ce n'est pas les mêmes types de contenus qu'on pourra consulter. Vous avez une idée du temps de jeu qu'il faut pour le terminer une fourchette, j'imagine puisque...
C'est oui, une fourchette assez large. On a des gens très rapides qui le finissent en 30 minutes et des gens qui le finissent en 1h30.
D'accord. Okay.
Sachant que ça, c'est pour la version actuelle, du coup.
Ok. Et donc du coup, là vous en êtes, donc il y a un prototype qui est, auquel on peut déjà jouer en ligne.
Exactement.
Est-ce que tu peux rappeler l'URL ?
Du coup, on peut y jouer sur accidentalqueens.com et il est disponible en français, anglais, espagnol.
D'accord, donc il y a eu le prototype qui est disponible pour l'instant sur ordinateur et donc vous êtes en ce moment en train de faire une campagne de crowdfunding pour
exactement.
Justement arriver à financer la première version complète du jeu qui serait disponible sur iOS et Android.
Exactement, donc on est à mi-chemin à peu près donc de notre campagne et notre but c'est déjà de rajouter d'autres types de contenus. On aimerait déjà avoir de la musique dans le jeu parce que pour l'instant à part quelques sons d'ambiance de téléphone il n'y a pas de musique. On aimerait aussi étoffer l'histoire, étoffer tous les personnages secondaires, amener certaines choses d'une meilleure façon, disons, avec d'autres applications, d'autres embranchements, on va dire, dans le jeu. Donc il y a tout ça. Il y a aussi la volonté d'avoir plus de contenu, parce que ça nous permet aussi de faire plus de pédagogie dans le jeu sur les questions LGBT, mais sans que ça devienne bah, un serious game chiant, quoi. Enfin, il faut que ça reste un jeu et que l'histoire reste intéressante. Du coup, il faut qu'on dilue ces informations-là dans du contenu.
Ça, c'est une question que j'avais justement. Est-ce que l'axe LGBT, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour le diffuser aussi comme un outil de sensibilisation qui soit utilisé de manière éducative, par exemple ou...
Alors, c'est très bien que tu me le demandes, parce que justement, je suis en train de contacter aussi des associations. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, faut surtout pas qu'elles hésitent à nous contacter. Nous, on pense que ce jeu, il a vraiment un double potentiel à ce niveau-là. C'est que déjà, ça permet à des personnes qui sont concernées, qu'elles voient qu'elles sont pas toutes seules en fait, qu'il y a d'autres personnes qui ont le même vécu, qu'il y a des gens qui font des jeux qui parlent d'elles, etc. ou d'eux. Et à côté de ça, pour les personnes qui ne sont pas concernées et qui sont pas forcément éduquées sur ces sujets-là, bah, ça leur permet de se mettre le temps d'un jeu à la place de cette personne et peut-être de réfléchir différemment. On a carrément quelqu'un qui nous a dit « Ah, merci pour votre jeu parce que ça me rend plus tolérant. » J'ai compris des trucs et à l'avenir, je serai plus tolérant. Et en fait, ça fait super plaisir d'entendre ça, quoi.
Je me permets de dire quelque chose parce que je soutiens fortement ce jeu. Voilà, j'essaie de l'accompagner un petit peu en communication aussi. Je trouve ça très intéressant parce que le discours n'est pas basique en disant... c'est juste mon opinion. En disant, bon, il y a des situations... La société a tendance à mettre une pression sur les personnes LGBT et elles en souffrent. On a d'abord une personne... avec qui on crée de l'empathie, qui souffre, et on se dit « Oh putain, mais le pauvre, comment je peux faire pour l'aider ?» Et en fait, on s'aperçoit qu'il est dans un système qui est le nôtre, et qu'il est LGBT, donc que le système en souffre. Et en fait, là, ça vient un peu au dernier moment, enfin pas au dernier moment, mais ça vient assez tard, ce qui fait qu'on a créé de l'empathie avec ce personnage, et on ne peut que être hyper sensibilisé à cette cause-là, de façon hyper, hyper soft, et c'est super bien amené, quoi.
D'accord. Et donc il y a actuellement donc la campagne de financement, elle se termine quand?
Alors à la base elle se terminait donc le 14 juin, et en fait on va peut-être avoir droit à une rallonge parce que on vient d'apprendre qu'on va être sur un stand avec d'autres jeux indés à l'E3.
D'accord.
Du coup,
l'E3 c'est un salon, c'est ça?
L'E3 qui est un salon de jeux vidéo qui a lieu à Los Angeles et qui est le plus gros salon pour présenter chaque année les nouvelles sorties, etc.
Donc un très très beau tremplin alors.
Donc c'est plutôt cool parce que ça va nous permettre de pouvoir en parler à pas mal de gens et de le faire connaître.
Vous avez été sélectionné aussi à Amaze, qui est le festival, c'est un peu le Burning Man du jeu vidéo européen, et il a eu un immense succès populaire, ce jeu.
Le Burning Man du jeu vidéo, c'est-à-dire que les gens ils vont y faire la fête et brûlent le stand à la fin.
Il y avait beaucoup de pyrotechnie. D'accord. Et c'était dans un hangar, enfin c'était très allemand, c'est-à-dire très trash mais très propre quand même.
D'accord.
Mais il y a que 20 jeux dans le monde entier qui sont sélectionnés, dont Normal Lost Phone, et il a pas eu le premier prix du public, qui était le premier prix, c'était un jeu qui s'appelait Genital Jousting, où on jouait des pénis qui devaient se pénétrer.
On n'avait aucune chance, mais
ils étaient quand même seconds, donc c'est un jeu à surveiller, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et toi, justement, on parlait justement de lancement de jeu, et je crois, toi, Fibre Tigre, que tu vas pas tarder à lancer aussi un jeu.
Oui, dans 2 semaines, surveillez vos mobiles, il y aura Out There Chronicle qui sort, un jeu qu'on a fait en 3 mois. 50 000 mots, des super artworks faits par un spécialiste de la science-fiction, et c'est un visual novel très, on va dire, techniquement on dirait il est orienté objet, donc un peu, pas un branchement, très, très libre dans l'espace, voilà, du space opéra à la française.
Alors, très bien, alors, alors si on reprenait les mots que tu viens de prononcer dans l'ordre, ça donnerait un visual novel orienté objet avec des embranchements.
Sans
embranchement.
Sans embranchement. Non, alors, ok. Alors, il faut tout expliquer, c'est
ouais,
ça.
Pourquoi pas.
Alors, visual novel, c'est un genre très très simple. C'est un peu le théâtre de marionnettes 2.0. C'est-à-dire, vous avez un décor, vous avez un personnage en surimposition qui est une bulle de BD. D'accord.
D'accord.
Et une il BD, vous parle. Exactement comme une BD, il vous parle. Et vous choisissez des réponses au dialogue, par exemple.
Ok.
Vous pouvez aussi dire, j'arrête la conversation avec toi et je vais dans le vaisseau spatial, machin. Et donc, avec ça, vous vivez une aventure épique dans l'espace. Voilà. Elle est orientée objet, ça veut dire que, normalement, un livre dont vous êtes l'héros tel qu'on les connaît, C'est on vous vit une aventure. Est-ce que vous êtes dans l'auberge? Est-ce que vous voulez en sortir? Est-ce que vous voulez commander un poulet? Voilà. Et en gros, on a des embranchements, ce qui fait qu'à la fin, on a un certain nombre très grand d'embranchements et de fins possibles, mais ça peut se recouper. Et il y a d'autres structures possibles, donc notamment une structure objet, c'est-à-dire que on fonctionne, on est plutôt en je veux aller dans le marécage. Si je suis dans le marécage et que j'ai tel objet, il y a tel événement qui peut se déclencher. L'équivalent littéraire de D'accord. ça, c'est la littérature structuraliste, c'est-à-dire que on donne un univers avec toutes les règles. C'est-à-dire, je suis avec Alexandre et si un jour je lui parle du football club de Sochaux, il va s'énerver. Et je donne juste des règles comme ça. Et si un jour ces circonstances se passent, il y a des conséquences qui apparaissent. Voilà. Et donc on est dans un univers figé et effectivement le joueur arrive, il a un petit peu le grain de sable qui va essayer d'organiser tout ça et qui va arriver à des fins positives ou négatives.
D'accord, voilà. Donc ça permet de garder l'historique de navigation du joueur, etc. et de savoir comment est-ce que ses choix aient des impacts sur le déroulement de l'histoire par la suite.
Voilà, mais disons que c'est ce qui peut générer un petit peu de narration émergente.
D'accord.
Dans la mesure où effectivement il peut y avoir beaucoup de paramètres qui sont pris en compte, c'est-à-dire que si il y a un autre sujet qui par contre ne t'énerve pas du tout et plutôt t'enchante, si je te parle de ces deux sujets en même temps, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Okay. Et qu'est-ce que va ressentir le joueur? Et donc du coup on a ces espèces de narration un peu incontrôlées. Et enfin, quand je dis c'est un space opéra à la française, donc il y a une grande scène dans un restaurant, voilà.
D'accord.
Et okay, on mange la nourriture de l'an 10 000 et je peux vous dire c'est assez cool, voilà.
D'accord, très bien. Très bien, donc ça s'appelle Out There Chronicles.
Chronicles, c'est dans deux semaines.
Dans deux semaines, alors on va passer à la dernière partie de notre émission, mais avant cela, nous allons faire la dernière pause musicale avec un titre d'Antipop Consortium qui s'appelle tout simplement Ping Pong.
Your hall, walking up walls, sideways and I stall, throw the web on you all, back up with a U-Haul, wreck your rep like Eddie on an LA strip with RuPaul, yeah you got the gall, a bitch in a shawl, rocking new mall, popping pussy, knocking niggas on Raw, talking about he got a crazy Benz, pouting fussy every second, where's the ATMs, when you peep at my shit, it's just a wavy lens, dose secondary yo, do what I bake for the fake, two shakes of scary spice and I'm off with the cake. On a rack for the track, let it cool off then black. Your whole crew want a snack after they nap, running up on me. But I told y'all kids, that's for the company. My symphonic monopoly philosophy sloppily edges notes awkwardly. Quarter to three, brass amp with a gas lamp, white wig, slang wolf gang, English chamber orchestra in a deadly banger, cliffhanger, the stranger with anger, Prospect Park the strangler. You couldn't catch me in the swamps of six navigators, alligators, maps and calibrators. Yo priest, throw the shit that keeps them on their toes like ballerinas.
Ballerinas. It's the return. It's the return. It's the return. It's the return. It's the return of the prime time, that's cadet. You get pat, expect cassette, epithets, epileptic ellipses, my thought eclipses, lapses in your fractal jelly jar. Czar, dictator, often imitated and hated by many. Judge me by my foes, judge me by my foes, enclosed foes. Judge me by the fact on a track, I reenact a fact that is only known in an intimate zone with a mic bone, I ignite tight poems. I'm known to write trifling poems on homes of grown kids with blown wigs that live in cribs and sleep under stairs on chairs. Three cheers, HP live like plants. Get your dance on, put your fake eyes on, try on, cry on. My song, sing about the freedom of my people. New Balance, sneaker fever, thunder receiver. One, two, the three, it's HP.
It's the return. It's the return. It's the return. It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
It's the return.
Vous venez d'entendre Ping Pong de